This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir avec la présidentielle française, vue d'ailleurs, Tel Aviv et Montréal. C'est le menu d'ailleurs dans le monde avec Michaël Thébault. Alexandra Akoun viendra nous parler de séries télé. Le festival Sérimania se tient jusqu'à ce dimanche à Paris. Et tout de suite, on parle des salauds de l'Europe.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Les salauds de l'Europe, guide à l'usage des eurosceptiques, c'est publié chez Kalman Levy et signé Jean Quatremer. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter, journaliste au quotidien Libération, spécialiste des questions européennes que vous couvrez depuis 1990. Alors, petit regard rétrospectif pour commencer, 1990-2017, ça fait pas encore 30 ans que vous couvrez l'Europe, mais pendant ces années, l'Europe, Jean Quatremer a connu des crises nombreuses. Celle qu'elle traverse aujourd'hui est la plus grave.
Sans doute. Enfin, moi, depuis que je couvre l'Europe, en tous les cas, on annonce sa disparition pour l'année d'après. C'est-à-dire que c'est dans l'ADN de l'Europe, c'est sa mort prochaine. Et il y a toujours des docteurs doom, des docteurs catastrophes qui sont là pour vous annoncer « demain l'euro va disparaître, l'Europe va disparaître », ainsi de suite. Cette fois-ci, la crise est grave, et notamment parce que la crise, elle est française. Si les Français votent pour Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, c'est la sortie de la France de l'Union européenne, et donc la fin de l'aventure européenne. C'est-à-dire que la crise, elle n'est pas vraiment européenne, elle est vraiment française. Parce que autant les Britanniques peuvent, eux, quitter l'Union européenne, parce que ce n'est pas un pays fondateur, et ils ne sont pas au cœur des politiques européennes, sans que ça menace la construction communautaire, autant la France, comme l'Allemagne, ne peuvent pas quitter l'Union européenne. S'ils quittent, eh ben, voilà, c'est la fin.
À quand datez-vous l'entrée dans ce cycle de crise ? C'est quoi ? C'est Maastricht, l'euro, la constitution européenne, la crise économique ?
Non, mais on a oublié toutes les crises du début de la construction communautaire. Je vous rappelle quand même que dès le lancement de l'aventure européenne, donc en 1950, la fameuse déclaration Schuman du 9 mai 1950, 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le traité CECA, donc Communauté économique du charbon et de l'acier, passe dans l'indifférence générale. La France est en pleine reconstruction, les gens mouraient de froid, avaient faim, donc bon, l'Europe c'était quelque chose de lointain, charbon et l'acier en plus, vous imaginez un peu, la haute autorité était à Luxembourg, perdue dans les frimas, lointain, il fallait 5 heures pour y aller, donc on s'en fichait un peu. Mais dès 1952, avec la communauté européenne de défense et la crise de 54, quand la France rejette l'armée européenne et la communauté politique européenne, c'est la première crise. Ensuite, vous avez le traité de Rome en 1957, puis dès l'année d'après, l'arrivée de De Gaulle qui a appelé à voter non, lui, contre le traité de Rome. Donc on se dit, est-ce qu'il va l'appliquer, pas l'appliquer ? Finalement, il accepte de l'appliquer. En 1965, c'est la crise de la chaise vide. Le général De Gaulle, pendant 6 mois, rappelle tous ses ministres de Bruxelles, ils n'ont plus question d'aller siéger dans ce machin qui parle un vol à puc intégré, etc. Donc, après, c'est la Grande-Bretagne, à partir de 1979, qui bloque le budget communautaire. On parlait d'eurosclérose. La crise, vraiment, elle est
consubstantielle.
Elle est consubstantielle. Il faut se rendre compte quand même que l'Union européenne, c'est quoi ? Ce sont des États qui volontairement acceptent de partager une partie de leur souveraineté. C'est difficile d'accepter de partager son pouvoir. Je veux dire, un chef qui accepte de partager son pouvoir avec ses subordonnés, il souffre si du jour au lendemain on lui dit bah tiens, on va t'enlever cette compétence et maintenant tu vas devoir en parler avec tes subordonnés. Eh ben le chef il coince. Ben, c'est pareil pour les États et c'est au quotidien, c'est douloureux de partager quelque chose qu'on a en soi en propre depuis 1000 ans, parfois plus.
Alors tout de même, pour essayer, je vous pose la question d'une autre manière, Jean Quatremer. Est-ce que l'euroscepticisme a changé de nature ces dernières années ou d'intensité ?
Petit à petit, l'intégration européenne touche des compétences qui sont au cœur des souverainetés. Je veux dire que dans les années 60, c'était la politique agricole commune, l'union douanière, les tarifs douaniers, etc. Puis à partir de Maastricht, donc c'est un traité qui a été une réponse à la chute de l'Union soviétique et donc du communisme, là, brutalement, l'Europe s'ingère dans des domaines qui jusqu'à présent relevaient de la compétence exclusive des États. Je pense à la politique monétaire, aux actions de politique étrangère commune, un petit peu de défense, de la justice, des affaires intérieures. Donc
ça commence à faire de plus en plus mal. Là.
Voilà, et là ça fait de plus en plus mal. Bon, on lève les contrôles aux frontières, mais on ne se met pas d'accord sur le contrôle des frontières extérieures. Donc les contrôles aux frontières intérieures, évidemment, c'est le fameux Schengen que chacun veut réformer tous les 6 mois. Il faut une réforme de Schengen désormais.
Schengen 2, 3, 4,
voilà, on a perdu
jusqu'à l'infini. Ouais.
Voilà, jusqu'à l'infini, exactement. Donc évidemment, les gens, en plus les États membres, ont compris depuis une vingtaine d'années que Bruxelles, c'était très pratique. C'était une boîte noire à déresponsabiliser. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui va mal, c'est à Bruxelles, et tout ce qui va bien, c'est nous. Donc, le nombre de chefs d'État et de gouvernement, ou le Premier ministre ou deux ministres qui rentrent à Paris, qui convoquent une conférence de presse avec des journalistes nationaux en expliquant, bah voilà, si j'avais été seul, bah ça se passerait pas comme ça, mais hélas, bah il y a 26 ou 27 autres ministres étrangers, vous rendez compte, des étrangers, qui m'ont obligé à accepter ça. En fait, c'est pas vrai. Il ment. Évidemment, par exemple, si la France ou un pays dit non, moi ça touche mes intérêts nationaux, la décision n'aurait pas été prise. Mais donc, dire que c'est la faute à Bruxelles, c'est une figure de la politique nationale. Donc, au bout d'un moment, les peuples finissent, et notamment le peuple français, finit par le croire. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, m'a raconté récemment qu'au lendemain du référendum de 2005, où les Français ont voté non au traité constitutionnel européen, Jean-Claude Juncker va voir, à la peu qui était Premier ministre du Luxembourg, va voir Jacques Chirac, président de la République française. Et il demande à Jacques Chirac, qu'est-ce qui s'est passé? Et Jacques Chirac lui dit, écoute, mon Jean-Claude, à force qu'on dise du mal d'Union européenne, eh bien, nos citoyens ont fini par le croire. Eh bien, c'est exactement ça. Les gens finissent par le croire. Quand vous avez des partis de gouvernement, des ministres, des responsables politiques, des partis républicains, j'entends, ceux de l'arc républicain qui passent leur temps à dire c'est la faute à l'Europe, au bout d'un moment, faut pas s'étonner que les citoyens commencent à rejeter l'idée européenne.
On va y revenir à ce point-là très précis, mais d'abord, galerie de portraits, qui sont les salauds de l'Europe, Jean Quatremer? Et déjà, pourquoi les appeler ainsi?
Des méchants ont dit que c'est une autobiographie.
Vous êtes le premier d'entre eux.
Voilà. Non mais les salauds de l'Europe, c'est un peu tous ces gens qui massacrent une idée qui reste une idée magnifique. Parce que l'Europe, c'est pas un truc d'une contrainte. C'est au contraire, c'est l'idée de créer une zone de paix et de prospérité. Je veux dire que l'Europe, même si aujourd'hui un certain nombre de pays ont des problèmes économiques, aujourd'hui l'Europe, c'est la première économie mondiale, la première puissance commerciale mondiale, une zone de paix sans équivalent dans le monde. Vous vous rendez compte que ça fait plus de 70 ans que nous sommes en paix sur le continent européen, je parle dans l'Union européenne, évidemment. C'est pour ça qu'on a eu le prix Nobel de la paix il y a quelques années. Enfin, l'Union européenne, nous tous, les 500 millions d'Européens. Donc c'est évidemment un succès. Mais néanmoins, c'est une construction qui n'est pas achevée. Et elle ne s'achève, elle ne progresse qu'à coup de crise. C'est-à-dire que les États, les gouvernements attendent d'être au bord du précipice pour réagir. D'où cette impression de crise permanente, de Conseil européen de la dernière chance, vous en avez entendu parler.
On en a couvert 150.
Voilà, si on ne sauve pas l'Europe demain, c'est fini. Voilà. Donc, les salauds, ce sont les gouvernements qui, au lieu d'anticiper, attendent le dernier moment pour réagir. Exemple, la crise des réfugiés. Vous n'allez pas me dire qu'une guerre qui a commencé depuis 5 ans en Syrie, qui a déplacé des millions de personnes à l'intérieur de la Syrie et dans les pays périphériques, je veux dire que 25% de la population du Liban aujourd'hui sont des réfugiés, 25%, j'ai attiré l'attention quand même des auditeurs sur ce chiffre incroyable, qu'un jour ou l'autre, ils ne finiraient pas par arriver chez nous. Donc on aurait dû prendre nos dispositions pour empêcher que ça se produise. On a attendu. Alors évidemment, là-dessus, cette Europe imparfaite qui ne résout les problèmes que lorsqu'on y est obligé, se sont greffés des eurosceptiques professionnels qui se sont dit, on tient un bon plan là. C'est bien, critiquer l'Europe, c'est super bien. Donc, ils utilisent ces imperfections, mais souvent, ils dénoncent des choses qui sont vraies.
Votre livre le prouve.
Voilà, c'est un livre extrêmement critique. C'est pas un livre d'Eurobéa comme certains pourraient le croire. C'est un livre qui est extrêmement critique. Donc, les eurosceptiques et les europhobes appuient là où ça fait mal. Alors parfois ils inventent complètement, parfois c'est du grand n'importe quoi, mais souvent c'est juste, ou parfois c'est à demi juste, c'est-à-dire qu'ils oublient souvent que on n'est pas tout seul à décider, on est 28 à décider autour de la table, et que si l'Europe elle est comme cela, c'est parce que il faut la construire avec des États qui sont tous souverains et qui veulent tous se retrouver dans cette construction. C'est-à-dire que, vous savez, la France elle aimerait bien plaquer son régime présidentiel sur l'Union européenne, c'est-à-dire que ça fonctionne de la même façon, que les choses soient simples, qu'on sache qui décide décide, etc. D'autres pays, non, sont des pays fédéraux où ça fonctionne très bien avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs. L'Allemagne est beaucoup plus à l'aise dans cette construction communautaire que nous. Donc les salauds, ce sont tous ces gens-là. Dire, on est tous co-responsables.
Et vous mettez Juncker et Barroso dans la liste ?
Je les mets aussi dans la liste, mais...
Et pour quelle raison ?
Barroso, par exemple, ancien Premier ministre portugais, nommé président de la Commission européenne par les chefs d'État et de gouvernement, y compris par la France, hein, je tiens à souligner. On savait tous qu'il était pas bon, que c'était pas quelqu'un de brillant. On le nomme, et évidemment...
Et pourquoi on nomme un nul, alors ?
Parce qu'à l'époque, Jacques Chirac a considéré que, vous comprenez, il parle français.
Donc, à partir de là, c'est
ce qui est vrai, il parle français. Sauf que, c'était le candidat de Tony Blair et on voulait quelqu'un qui ne réglemente pas. C'est-à-dire qu'il fasse exactement ce que veulent les europhobes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a surtout pas réglementé. Et notamment, il a refusé de réglementer les marchés financiers. Il avait été placé là pour ça. Alors, à partir de 2008-2009, au moment de la crise, il a changé son fusil d'épaule et il a fait ensuite ce pourquoi il avait été désigné la première fois, en 2004. Dès qu'il quitte la commission, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe chez Goldman Sachs. Mais quel symbole, Goldman Sachs, la banque d'affaires américaine qui a inventé les subprimes, qui est responsable de la plus grave crise économique depuis 1929. Le président de la Commission européenne, qui était censé être le bouclier contre ces pratiques, ces malversations, qui ont causé de la misère et du chômage dans le monde entier. Le président de la Commission passe chez lui. Jean-Claude Juncker, c'est un fédéraliste, c'est quelqu'un qui est tout à fait estimable, qui croit profondément en l'idée européenne. Mais pourquoi les partis politiques européens ont-ils désigné le premier ministre d'un État qui a été longtemps un paradis fiscal?
Et pourquoi, Jean Quatremer?
Mais parce que c'est comme ça, c'est la politique européenne. Elle est faite par les partis politiques nationaux et donc par les États et par les gouvernements. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait se dire qu'il faut nommer, comme on le faisait dans le passé, des gens sans tâche. Pourquoi il faut nommer des gens sans tâche? Il faut nommer des moines soldats, des gens qui sont là pour défendre l'idée européenne, qui ne sont pas là pour s'enrichir, pour s'en mettre plein la poche et qui ont un passé irréprochable. Parce que la construction européenne, elle est moins légitime, l'Europe, elle est moins légitime que nos États. Au fond, nous, on peut se payer un candidat à la présidentielle qui a confondu, je dirais, la caisse publique avec sa caisse privée.
Parlons pas de la France, s'il vous plaît.
Bon, donc, alors, mais c'est la même chose en Espagne ou Portugal, etc.
Espagne, Portugal,
Des responsables politiques nationaux qui ont trempé dans des magouilles. Ça ne va pas remettre en cause l'existence de l'État. L'Europe, sa légitimité, elle est extrêmement fragile. C'est une construction qui a commencé dans les années 50, mais qui s'est accélérée en 92 et surtout à partir du traité de Lisbonne en 2007. Donc elle peut être remise en cause à chaque moment. Donc il faut désigner des gens irréprochables. En gros, l'Europe ne peut pas se permettre les erreurs des États membres. On ne peut pas se permettre un scandale Mediator, par exemple, au niveau européen. La France peut se le permettre. Est-ce que la France s'est effondrée? Est-ce que le gouvernement français est tombé? Non. Tchernobyl, vous rappelez le nuage de Tchernobyl qui avait fait le tour de nos frontières? On peut se le permettre, on a menti. Mais si l'Europe fait la même chose,
Elle implose. Vous prenez les arguments des eurosceptiques, entre guillemets, pour les explorer, voir de quelle manière parfois ils sont justes, à moitié justes ou totalement faux. Mais vous faites l'effort, Jean Quatremer, d'aller sur leur terrain et de répondre. Donc, en matière d'économie, la critique la plus forte qui est formulée à l'égard de l'Europe, et là ça concerne vraiment un certain nombre de pays, on n'en a pas le monopole, c'est que c'est une zone de libéralisme, voire d'ultralibéralisme, de marché pur et sans contrainte. Qu'est-ce qu'on répond à cette critique ?
Alors c'est tout à fait intéressant.
Sinon, qu'elle est vraie.
D'abord, la France est un pays, une économie de marché. C'est un pays capitaliste. Et s'il n'y avait pas l'Europe, elle resterait capitaliste. Elle a été capitaliste avant. Elle sera capitaliste après la disparition de l'Europe. C'est comme ça. La France n'est pas un pays communiste. Il faut juste le réaliser. Je sais que parfois c'est dur dans certains milieux, mais il faut le réaliser. Donc c'est vrai que l'Europe, c'est une économie de marché. Est-ce qu'elle est ultralibérale ? Non. Exemple, la politique de concurrence libre et non faussée. C'est fascinant. On en a fait le symbole de l'ultralibéralisme européen. En réalité, de quoi s'agit-il ? Ça a été créé en 1950, cette politique de concurrence libre et non faussée. Il s'agissait à l'époque de briser les concernes allemands, c'est-à-dire l'intégration verticale du charbon, de l'acier et des producteurs d'armes. Donc il s'agissait de casser ça. Il s'agissait de casser chez nous le pouvoir des maîtres de forge. Et donc, c'est-à-dire de ces gens qui ont poussé à la Première Guerre mondiale, voire à la Seconde, monde, en Allemagne, qui se sont entendus avec les nazis. Et réguler donc la concurrence entre les grandes entreprises, empêcher qu'elles s'entendent entre elles pour faire trop pression sur les États, et réguler la concurrence entre les États. C'est ça la politique de concurrence libre et non faussée. Alors après, on peut en discuter son application dans tel ou tel cas. Est-ce qu'il faut interdire l'émergence de géants européens qui seraient monopolistiques sur le continent européen face à des géants comme Google, Apple, Amazon, etc. Moi, je pense que l'Europe a péché en se montrant trop rigoureuse dans l'interdiction des monopoles. Voilà, il aurait fallu parfois les accepter, quitte à les surveiller soigneusement. Mais pour le reste, en faire un symbole de l'ultralibéralisme, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on veut des entreprises qui s'entendent sur le dos des clients pour augmenter les prix ? Est-ce qu'on veut des entreprises qui bloquent le progrès technologique ? Non, on ne veut pas ça. Je veux dire qu'aucun Français ne voudrait encore du Bebop, du Minitel, etc. La concurrence, c'est quelque chose qui est nécessaire au progrès économique.
Alors, je vais le dire autrement, Jean Quatremer, le spectacle donné par la mise sous tutelle de la Grèce est terrifiant.
Oui, c'est terrifiant, sauf que...
Alors là, vous parlez de souveraineté partagée. Non, là, c'est plus de souveraineté.
Ben là, c'est plus de souveraineté parce que le pays a fait faillite.
Donc économiquement et idéologiquement, quand on voit ça, on se dit mais c'est pas possible. Alors, c'est pas possible.
Oui, sauf que...
Et les gens souffrent.
Les gens souffrent. Mais on aurait très bien pu laisser la Grèce faire faillite.
Oui, ou l'aider différemment, non ?
Non, mais on pouvait... ça dépend. On peut l'aider différemment. Il faut savoir qu'on a prêté à la Grèce 320 milliards d'euros pour faire face aux emprunts qu'ils avaient contractés. Alors, il y avait une possibilité simple, c'était de les laisser faire faillite. C'est-à-dire comme l'Argentine a fait faillite. Ça voulait dire couper 30 à 40% du budget grec. À l'époque, la Grèce dépensait, donc son budget était d'environ 80 milliards, et elle ne couvrait qu'environ 50 milliards de ses dépenses. Donc il aurait fallu couper du jour au lendemain 30 milliards. C'est l'Argentine, les gens qui allaient manger dans les poubelles, les fonctionnaires qui n'étaient plus payés. C'est pas cette voie-là qui a été choisie. C'est-à-dire, on va vous aider, mais il va falloir équilibrer vos dépenses avec vos revenus. C'est-à-dire que quand un pays a failli, de facto, soit on laisse se débrouiller tout seul, soit on l'aide avec cette méthode-là. Alors qu'il y a une autre méthode qui aurait été de dire, écoutez, bon, vous avez fait faillite, très bien, on vous paye, on vous donne 320 milliards d'euros. Est-ce que les citoyens européens sont prêts à aider la Grèce, c'est-à-dire à être responsables du budget grec, alors que ce n'est pas eux qui vont élire les responsables politiques grecs, qui vont décider des politiques, qui vont engager les finances publiques françaises, par exemple. Allez dire ça en Allemagne. Vous allez voir la réaction des Allemands. Mais même les Français, quand on pose la question aux Français, est-ce que vous êtes prêts à financer le budget grec ad vitam aeternam, sans aucune contrainte, et que les Grecs dépensent comme ils veulent dépenser ? Les Français diraient non, et à juste titre, parce que chaque pays doit faire l'effort de contrôler ses comptes. On partage la même monnaie. Alors, là où je vous rejoins, c'est que l'erreur gravissime, et ça c'est un dysfonctionnement de l'Europe, c'est qu'on a un club de gentlemen. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a accepté les Grecs en 2001 dans la monnaie unique, on savait déjà que les Grecs n'étaient pas prêts, qu'ils ne pouvaient pas supporter les contraintes de la monnaie unique, que leurs comptes étaient truqués, que le pays était corrompu, qu'il y avait un clientélisme de masse, etc. Tout ça, on le savait, c'était pas un secret. Les Grecs n'ont jamais rien caché. Mais on les a pris un peu avec l'argument de Valéry Giscard d'Estaing quand ils sont entrés dans l'Union européenne en 1980. On ne peut pas dire non au pays de Platon. Vous voyez ce genre d'argument ? Non, je veux dire que c'est pas avec ce genre d'argument-là, qui date de 2000 ans, qu'on peut faire fonctionner l'Europe. Donc, oui, la Grèce souffre, et elle va encore souffrir, parce qu'il va falloir qu'elle équilibre définitivement ses budgets, qu'elle rembourse ce qu'elle a prêté. Moi, je pense qu'il faudrait lui faire cadeau de cet argent. Tant pis, on prend nos pertes, on n'avait qu'à pas l'accepter, il faut le savoir, et la surveiller pour éviter que ça recommence à l'avenir. Mais encore une fois, moi, ce qui me sidère, c'est que les gens qui disent « oui, c'est un scandale ce qu'on fait subir à la Grèce », ne vont pas jusqu'au bout du raisonnement qui dit 1% ou 2% ou 3% du budget français, désormais, doivent être consacrés à aider la Grèce. Si on accepte ça, moi je suis pour, hein, personnellement, mais si on accepte ça, très bien. Faisons-le.
Une dernière question, Jean Quatremer, sur les attaques claires de la nouvelle administration américaine contre l'UE. C'est un vrai risque ou ce sont des paroles verbales ?
Ah, moi, je pense que c'est un vrai risque. On est aujourd'hui, l'Union européenne se rend compte qu'elle est seule. En réalité, ça fait un petit moment qu'on est seul. Hein. Je veux dire qu'Obama avait un peu caché la réalité, puisqu'il y avait le grand shift, vous savez. Donc, il s'était tourné vers le Pacifique et il s'intéressait de moins en moins à l'Europe.
Mais il avait de bonnes relations avec l'Allemagne et
voilà.
Voilà.
Exactement.
C'était
exactement.
Comme avant.
Exactement. Et la Russie se montre de nouveau impériale. Elle veut manifestement reconstituer un glacis à ses frontières, donc les pays baltes, une partie de l'Ukraine, la Géorgie, etc. Donc nous, on n'est pas armés pour ça, parce que on n'a pas de défense européenne. On a remis notre défense aux mains des Américains. Et maintenant, nous avons un président américain qui, pour la première fois depuis 1945, nous dit écoutez, l'Europe est obsolète, l'OTAN est obsolète. Au fond, si vous voulez encore avoir l'OTAN et la présence des troupes américaines chez vous, va falloir payer. Donc, il va falloir augmenter vos budgets militaires à due conséquence. Et pour le reste, pour moi, l'Union européenne, qu'il appelle le consortium, c'est terrible, le consortium, moi, je souhaite sa disparition. Le Brexit est une excellente chose. Donc, pour la première fois, notre allié de toujours nous se lave les mains de notre avenir. Et les Britanniques eux-mêmes ont décidé de sortir de l'Union européenne, c'est-à-dire que nos alliés anglo-saxons, ceux qui nous ont sauvés du nazisme en 1945, aujourd'hui se désintéressent de notre sort. Donc, maintenant, notre avenir est entre nos mains et aujourd'hui, les Français devraient avoir à l'idée, quand ils vont voter pour la présidentielle, que c'est l'avenir de l'Europe qui se joue. C'est l'avenir de l'Europe et la stabilité du vieux continent.
Jean Quatremer, merci. Les salauds de l'Europe, guide à l'usage des eurosceptiques, est publié chez Kalman Levy. Vous êtes journaliste à Libération, blogueur de la première heure, les coulisses de Bruxelles. Donc, vous suivez ça depuis près de 30 ans, mon cher Jean Quatremer.
Et j'ai l'air jeune, non ?
Oui, ça conserve visiblement le journalisme à Bruxelles. Merci encore.
Merci à vous.
Michael Thébault dans quelques instants sur Inter. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee. La-di-da-di-da. Charleston was once the rage, History has banned that stage, The mini skirt's the current thing, Teeny bopper is our newborn king, And the beat goes on, the beat goes on. Pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee. La-di-da-di-da. Grocery stores, a supermarket. Little girls still break their hearts, Men still keep on marching off to war. On. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee. La-di-da-di-da. Rich sur Inter,
18h40.
Emmanuel Macron, 39-year-old candidate Jean-Luc Mélenchon.
Marine Le Pen va passer à la seconde.
Benoît Hamon.
Mickaël Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Ailleurs dans le monde, on poursuit notre série La campagne présidentielle vue d'ailleurs avec deux destinations ce soir, le Canada et d'abord Mickaël, Israël.
Et plus précisément Tel Aviv, avec cette double question, comment les Israéliens perçoivent-ils cette élection et comment les Français installés en Israël suivent eux aussi cette campagne? Car vous le savez, ils sont très nombreux à avoir choisi de vivre ici, près de 80 000 ressortissants français, pour la plupart de confession juive, qui sont officiellement enregistrés auprès du consulat, des Français qui, lorsqu'ils votent, votent en grande majorité à droite. Ainsi en 2012, où le candidat Nicolas Sarkozy avait recueilli 80% des voix au premier tour de la présidentielle. Alors qu'en sera-t-il cette année? Bonsoir Marie Semelin, en direct de Tel Aviv.
Bonsoir Mickaël.
Et déjà une première indication, Marie, parmi les dizaines de Français que vous avez rencontrés, eh bien presque tous vous ont dit leur confusion, voire leur exaspération après l'affaire Fillon, ça dure, comme ce couple filloniste de la première heure, mais qui aujourd'hui ne sait plus pour qui voter.
Oui, Laetitia et Olivier suivent de près les élections, même s'ils vivent à Tel Aviv depuis 5 ans. Et malgré cette décision, ils se fichent un peu de ce que disent les candidats français sur Israël. Pour autant, ils ne savent toujours pas pour qui voter. Et au square, avec leurs enfants à côté, ils débattent encore. Le sentiment néanmoins qui domine quand ils parlent de cette campagne, c'est l'exaspération.
Une blague, un canular, un camouflet. Mais franchement, depuis qu'on est là, on suit parce que c'est captivant au niveau de l'ambiance. Mais il n'y a aucun candidat valable. Ça m'énerve quand même pas mal. Ça m'énerve pour les Français, moi je suis très bien ici.
Mais ce qui inquiète ce couple, c'est Marine Le Pen. Même si elle est toujours officiellement persona non grata dans l'État hébreu, tout comme les autres membres du Front National, ils ont l'impression qu'elle séduit plus qu'avant les Français d'Israël.
Je pense que les mouches ont changé d'âne, parce qu'avant c'était les Juifs qui embêtaient le Front National, que maintenant aujourd'hui c'est les musulmans. Mais il ne faut pas oublier que c'était les Juifs avant et que demain ça sera encore les Juifs. Cette dédiabolisation, c'est du cinéma. Elle est autant antisémite que anti-musulmane.
Je comprends pas qu'il y ait des gens qui mesurent pas la gravité et qui puissent être juifs et voter pour elle. Je trouve ça genre d'une bêtise.
Voilà, le vote frontiste, on l'entend, qui anime donc les conversations de ces Français de Tel Aviv, avec des positions évidemment très tranchées, Marie. Et position qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez les Israéliens eux-mêmes.
Oui, et une fois qu'on lance Ehud sur le sujet, il ne tarit pas sur les candidats. Cet Israélien de 71 ans a ses préférés et ceux qu'il aime un peu moins, il suit comme ses amis les développements de la campagne et ce qu'il n'a pas pu digérer. C'est la phrase de Marine Le Pen sur la rafle du Veldiv qui a eu ici beaucoup d'écho.
Récemment, elle a dit que la France n'était pas responsable de l'exécution de 13 000 juifs, que c'était seulement les Allemands. Mais on sait bien que c'est la police française qui a fait le travail pour eux. Son père, monsieur, quel est son nom déjà, Jean-Marie, est un antisémite certifié. Elle n'est pas bonne pour la France, disons-le comme ça. Si j'étais français, je ne voterais jamais pour elle. Les extrêmes des deux côtés, ça n'est bon pour personne.
Français votés comme aux Pays-Bas, dit-il. Une autre élection qu'il a suivie avec attention en mars et où, contre ce que semblaient indiquer les sondages, l'extrême droite n'est pas sortie gagnante.
Et l'autre thématique qui domine ici, chez vous, c'est évidemment celle de la sécurité et cette question, comment le prochain président français luttera-t-il contre le terrorisme?
Et ça commence par un constat que fait Itai, un jeune danseur. Pour lui, la violence du conflit israélo-palestinien est la même que celle qui frappe la France et l'Europe.
Je pense que récemment, la France a réalisé ce que nous vivons ici en Israël, par la manière violente, malheureusement. Mais maintenant, toute l'Europe comprend la situation où nous sommes. C'est dans ces conditions que je vis depuis que je suis enfant. Et j'espère que maintenant, on pourra s'unir contre le terrorisme et partager le même point de vue.
David, lui, travaille sur l'un des marchés de Tel Aviv. Il se définit au centre et pour lui, la majorité de nos candidats n'a pas la stature pour mettre en place la politique dont la France a besoin. Il les trouve trop laxistes, notamment envers l'intégrisme musulman.
Si dans les mosquées ils crient « Allahu Akbar », allez tuer des gens, alors dehors, dehors, hors de France. Ceux qui s'accordent avec le pays, bienvenue. Ceux qui ne veulent pas s'adapter au pays, avec les règles du pays, dehors. Si la France veut être la France encore dans 10 ans, dans 20 ans, rester la France et la grande nation qu'elle est, il faut agir.
Il espère que le prochain président viendra en Israël pour prendre quelques conseils sur la prévention du terrorisme. Pour lui, une référence en la matière.
Marie Semelin, correspondante de France Inter à Tel Aviv. Merci Marie.
Et avant de partir pour le Canada, Michael, petit détour par la presse étrangère du jour, à commencer par la presse espagnole.
Oui, avec El Mundo qui se projette déjà au second tour, jugeant réaliste la possibilité d'un duel final Le Pen-Mélenchon. Autrement dit, l'impensé, l'impensable, le fascisme et le communisme qui s'affrontent de nouveau en Europe pour la première fois depuis 1945, affirme le quotidien. Il y a encore quelques semaines, le système électoral français rassurait les Européens raisonnables. Même si l'on craignait que Le Pen soit présente au second tour, il paraissait évident qu'elle serait alors vaincue par Macron ou Fillon. Mais aujourd'hui, qu'en est-il ? S'interroge El Mundo, qui poursuit en ces termes. Après le cauchemar de cette victoire à la Pyrrhus, on voit déjà se profiler les législatives de juin. Et là, ni les fascistes, ni les communistes n'obtiendront facilement une majorité. La décadence est inexorable. La France a une dimension politique inconnue entre xénophobie et chavisme. Dans une telle dimension, le national-populisme fait de la démocratie un raffinement superflu. Fin de citation, ça cogne. Hein. Et c'est aussi le candidat de la France insoumise qui retient l'attention de la presse allemande, notamment de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui se souvient que Jean-Luc Mélenchon n'a guère de sympathie pour l'Allemagne. Dans cette France qui ne doit pas se soumettre, il y a une forte dose d'anti-germanisme, pointe le quotidien conservateur, qui rappelle au passage que Jean-Luc Mélenchon, je cite, « dont les modèles sont Fidel Castro et Hugo Chavez, dont le programme économique est d'inspiration communiste », est aussi l'auteur d'un livre au titre provocateur, Le hareng de Bismarck, le poison allemand. Et alors que les sondages annoncent une forte remontée du candidat de la France insoumise, le quotidien allemand s'inquiète lui aussi d'un possible duel le 7 mai avec Marine Le Pen. Car explique-t-il, l'ancien trotskiste a réussi à apparaître comme le seul candidat de gauche à pouvoir être pris au sérieux. Il pourrait donc franchir la barre du premier tour, surtout s'il se concentre sur ses thèmes de prédilection, la critique de l'UE et tout particulièrement de la chancelière Angela Merkel, des critiques devenues, je cite, « des slogans ». Slogan qui lui valent un succès assuré, estime le journal. Ni Mélenchon, ni Le Pen, au contraire pour le New Statesman, qui s'intéresse lui au candidat Les Républicains, candidat certes discrédité mais pas coulé. François Fillon est toujours dans la course malgré tout, s'étonne l'hebdomadaire britannique, qui estime que ses soutiens se montrent remarquablement résilients, tellement qu'il pourrait finalement l'emporter contre vents et marées. Enfin, plusieurs grands quotidiens, Nicolas, se posent la même question, résumée ainsi par la Vanguardia. La dernière ligne droite pourrait-elle être fatale à Emmanuel Macron, le favori des sondages jusqu'à présent ? Le quotidien espagnol, très ironique, mordant, compare le meeting du candidat d'En Marche à une discothèque des plus classiques, avec une communion digne d'un stade de football, sous le charme d'un prédicateur évangéliste du Midwest, et de s'interroger... Comment la France, nation la plus politisée d'Europe, peut-elle pencher en faveur d'un pur produit marketing issu de l'establishment ? Ce serait du jamais vu dans l'histoire de ce pays. La Süddeutsche Zeitung, enfin, affiche elle une toute autre tonalité. Le quotidien allemand affirme que Berlin reste en droit d'espérer une victoire de Macron, car des quatre candidats en tête, il est le seul dont l'engagement européen ne souffre aucune condition et qui mise sur une meilleure coopération avec l'Allemagne.
Quelle revue de presse, Michael Thébault. Direction donc maintenant le Canada, Montréal, où la présidentielle française ne fait pas franchement la une de la presse.
Ah non, tous nos confrères en parlent, évidemment, mais beaucoup moins, c'est vrai, que de l'actualité américaine et des dernières décisions de Donald Trump. Et comme on le voit un peu partout dans la presse internationale, eh ben c'est surtout Marine Le Pen qui fait couler l'encre aujourd'hui, davantage en tout cas qu'Emmanuel Macron, même si le candidat d'En Marche avait eu de nombreux papiers et reportages il y a quelques semaines, où on soulignait notamment ses ressemblances avec le jeune Premier ministre canadien Justin Trudeau. Mais à 5 jours du premier tour, c'est donc la tentation du vote frontiste qui retient l'attention, y compris dans la rue, comme l'a constaté notre confrère québécois David Savoie, qui s'est rendu hier sur l'un des marchés les plus populaires de Montréal.
Il y a foule au marché Jean Talon durant le congé pascal. Ici, le nom Le Pen évoque bien quelque chose, mais autrement, l'élection française retient peu ou pas l'attention. Faute de temps, dit Roxane.
Non, pas du tout.
Pourquoi?
Ben, parce que j'ai pas le temps. On travaille tout le temps, donc j'ai pas vraiment le temps de suivre l'actualité.
Mais aussi carrément d'intérêt.
Parce qu'il y a tellement de candidats, puis c'est un peu loin aussi. On est déjà assez préoccupés par ce qui se passe aux États-Unis, ça, en plus... suivre ce mouvement-là.
La menace de l'extrême droite est réelle pour Nick, un Britannique installé à Montréal, qui voudrait bien avoir plus de temps pour suivre l'actualité.
Je pense que tout le monde avait un choc avec l'élection de Trump et même le Brexit. Qu'est-ce qui se passait en Angleterre? C'était comme une vague conservatrice. Et je pense avec ce qui se passe dans les Pays-Bas, c'est encourageant. Et, j'ai l'espoir pour la France que ça va pas se la vague ne va pas continuer. Et, peut-être que je peux être choqué. J'étais surpris avec l'élection de Trump.
Tout ça malgré une couverture médiatique bien présente, ainsi que des liens commerciaux et culturels qui unissent la France et le Canada. Il est vrai que ce système à deux tours et cette dizaine de candidats sont des éléments éloignés de la culture politique canadienne, où le gouvernement est formé par le parti qui remporte la majorité après un seul vote. Mais si le scrutin dans l'Hexagone n'intéresse pas trop aux clients et commerçants du marché montréalais, des élites politiques et économiques de Toronto, la capitale financière du pays, s'en inquiètent. La vague de populisme avec le Brexit et l'élection de Trump fait craindre le pire pour l'Union européenne. Plus à l'ouest, dans les prairies et au-delà des Rocheuses, cette élection française et les possibles conséquences européennes attisent peu la curiosité pour le moment. C'est du moins l'avis de Frédéric Boily, professeur en sciences politiques à l'Université d'Alberta.
D'abord, il y a une différence entre l'est et l'ouest du pays. Il est clair qu'au Québec ou même en Ontario, on a quand même, une curiosité qui est un peu plus grande à l'égard de ce qui se passe en Europe, à l'égard de ce qui se passe en France, évidemment, aussi du côté québécois, avec tous les liens qu'il y a. Du côté de l'ouest canadien, ben c'est surtout du côté pacifique qu'on regarde. Du côté des États-Unis, mais du côté aussi de... en raison des liens économiques qu'on veut développer avec la région du Pacifique, on commence à avoir un intérêt qui est un petit peu plus grand à l'égard de ce qui se passe en direction de l'ouest de la planète.
Chose certaine, il apparaît peu probable que les Canadiens seront nombreux le 23 avril à avoir les yeux rivés sur un téléviseur quand seront dévoilés les résultats du premier tour. Peut-être les choses seront différentes le 7 mai.
Voilà, reportage à Montréal signé David Savoie. Et notez que ce soir, toute la presse québécoise dans sa version en ligne revient évidemment sur cette tentative d'attentat déjouée ce matin à Marseille. Et du quotidien Le Soleil au journal de Montréal, en passant par Le Devoir, tous se demandent quel candidat à la présidentielle pourrait être, entre guillemets, avantagé par la menace terroriste. À demain, Nicolas.
À demain, Michael. Dans quelques instants, on parle série télé.
Song, oui, voilà, c'est ça, 18h50.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et maintenant, on va parler série télé avec vous, Alexandra Akoun, bonsoir.
Bonsoir.
Le festival Sériemania se tient jusqu'à dimanche au Forum des Images à Paris. Plus de 90 séries du monde entier y sont présentées. Alors Alexandra, vous en avez choisi deux pour nous. On commence avec l'américaine Feud, qui sera présentée dimanche en clôture de Sériemania, mais qui arrive lundi soir sur Canal+.
Déjà, Feud, en anglais, Nicolas, est-ce que vous savez ce que ça veut dire?
C'est un peu moins qu'une baston.
Ouais, c'est une querelle. Voilà. Et c'est ça le principe de cette série créée par Ryan Murphy, à qui on doit déjà les excellentes Nip Tuck et American Horror Story, c'est de mettre en scène les grandes rivalités entrées dans l'histoire. Cette saison 1 s'intitule Betty and Joan et va, sur 8 épisodes, nous faire vivre de l'intérieur la guerre que se sont livrées Bette Davis et Joan Crawford sur le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane, Louis Clos terrifiant de 1962 entre deux sœurs, signé Robert Aldrich. Crawford et Davis se détestaient déjà, mais pendant ce tournage, leur antagonisme va atteindre des sommets. Bette Davis, ici, c'est Suzanne Sarandon, Joan Crawford, Jessica Lange, et elles sont hallucinantes de mimétisme. Bande annonce.
You gotta keep them at each other's throats. You have to.
Lose the shoulder pads.
I beg your pardon.
Cut back on the lipstick. You're playing a recluse who hasn't seen the sun for 20 years, for Christ's sake.
And action.
Et on se délecte vraiment de les voir s'insulter, de faire tous les coups bas possibles. Par exemple, une scène où Bette Davis doit traîner sa partenaire sur le sol. Joan Crawford sait pertinemment à ce moment-là que Bette Davis souffre du dos. Alors en cachette, elle s'accroche une ceinture de plomb autour de la taille pour être bien lourde. Et elle fait refaire la scène 10 fois, 15 fois jusqu'à épuisement de sa rivale. Côté petite phrase assassine, je ne résiste pas à l'envie de vous en citer deux, de Bette Davis. Sur la vie sentimentale de Joan Crawford, elle lâche à une journaliste, Joan a couché avec toutes les stars de la MGM, sauf Lassie. Et sur le jeu de Joan Crawford, elle pleure beaucoup, ses canaux lacrymaux doivent être près de sa vessie.
Alors au-delà, Alexandra, de l'hostilité entre les deux, au-delà du côté comédie, Feud est aussi une critique du sexisme et de l'agisme qui règne à Hollywood.
Oui, en 1962, Bette Davis et Joan Crawford ont toutes les deux 50 ans passés. Autant dire que pour Hollywood, elles sont grabataires. Et ce que montre bien la série, c'est comment Joan Crawford va se battre pour travailler. C'est elle qui va trouver l'histoire de Baby Jane, le réalisateur. Elle va chercher sa pire ennemie parce qu'elle sait que l'électricité entre les deux va littéralement crever l'écran. Mais au début, personne n'y croit. Et même après, Baby Jane est un immense succès. Mais le téléphone ne se remet pas pour autant à sonner. Une scène aussi est très frappante. L'assistante d'Aldrich, Pauline, souhaite devenir réalisatrice, arguant qu'à l'époque du muet, beaucoup de femmes étaient passées derrière la caméra. Mais Joan Crawford lui dit que pour elle, ça n'arrivera pas.
Qu'est-ce qui, d'après vous, a empêché une nouvelle vague de femmes réalisatrices ?
Money.
L'argent.
Money.
L'argent est arrivé. Les films muets étaient à petit budget, petit risque. Un producteur pouvait s'amuser à l'idée qu'une ingénue ou une monteuse s'essaye derrière la caméra. Mais quand les studios ont pris le pouvoir, ils ont remis les femmes à leur place. Costumes et scripts. Un réalisateur, c'était la vigueur, l'autorité, la responsabilité fiscale, donc on a confié ça aux hommes, et ça n'est peut-être pas si mal pour nous.
Et elle est terrible, hein, cette dernière phrase, une sorte de fatalisme, c'est peut-être mieux comme ça pour nous, une condition à laquelle les femmes doivent se plier. Le pire, c'est de se dire que 55 ans plus tard, les choses ont un peu évolué à Hollywood, mais pas tant que ça.
Autre série présentée à Sérimania, Alexandra, Lâcher prise, c'est une production ici, Radio-Canada, sur une problématique bien connue. Le burn-out.
À 36 ans, Valérie gère sa vie avec une discipline militaire, divorcée, mère d'un petit garçon, professionnelle accomplie. Elle est une sorte de superwoman jusqu'au jour où Valérie va disjoncter.
Savez-vous quel genre de vie je mène? Quel genre de matinée de fou je vis?
On va se calmer, là.
Pourquoi tu retournes pas aux douches, Pakistan, travailler ton six-pack au lieu d'écœurer le monde?
Pas chier, la grosse.
Comment tu viens de m'appeler?
Je dis la grosse.
J'ai dit la grosse, excuse-moi, je veux dire la grosse mal fourrée.
Lâche-moi, je m'en fous la police.
C'est moi la police, elle va la gueule.
Et pour s'en sortir, Valérie va être obligée de faire appel à sa mère, journaliste star de la télé québécoise, récemment poussée vers la sortie, ultra égocentrique. C'est très drôle, en plus nos cousins québécois ont vraiment un langage des plus fleuris. Et tiens, encore une histoire avec des personnages féminins très forts, et je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Malheureusement, pas diffuseur en France pour le moment pour Lâcher prise, mais je suis sûre que ça ne devrait pas tarder.
Alexandra Akoun, merci. Un mot du téléphone sonne à 19h20, consacré ce soir à la campagne invisible. Ces débats importants pour le pays qui n'auront pas ou peu eu lieu pendant la présidentielle. Ce soir, le handicap qui, sous une forme ou une autre, concerne une douzaine de millions de nos concitoyens. C'est colossal. Les programmes des différents candidats en parlent évidemment. Ils font des propositions, mais rien qui ressemble au débat qui avait conduit à la grande loi de 2005. Alors vos questions au 01 45 24 7000 et via Twitter avec le mot-clé Telson. Il est 19h.